Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour repartir. Jérôme Pichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La France a tout pour repartir. Chaque semaine et jusqu'à la fin juillet, vous le savez, nous mettons à l'honneur toutes celles et tous ceux qui contribuent et qui veulent faire redémarrer la France au plus vite à l'issue de cette crise du Covid-19. Alors au sommaire, cette semaine, eh bien la souveraineté sanitaire française, sujet, vous le savez, au cœur de cette période post-Covid. Dans 3 ans, on nous promet même du paracétamol 100% made in France. Mais d'ici là, il y a les investissements annoncés dans la semaine par Sanofi dans la recherche et la production de vaccins. On en reparle dans quelques instants. Nous reviendrons également sur l'entrée dans le CAC 40 la semaine prochaine de Téléperformance, une incroyable success story française débutée il y a 42 ans dans un tout petit appartement parisien, transformé à l'époque en mini-centre d'appel depuis que de chemin parcouru. Enfin, nous nous plongerons dans les matelas made in France du groupe Coffel. C'est un des effets inattendus de la crise. Nous avons tous besoin d'un intérieur douillet et cela s'est caractérisé entre autres par un boom récemment des ventes de matelas. Et tout d'abord, donc, cette info BFM Business que nous vous révélions au cours de la semaine. Le gouvernement planche actuellement sur un plan d'aide pour les commerçants et pour les indépendants, des pans entiers de l'économie qui ont eux aussi beaucoup souffert de la mise en pause de l'activité pendant quelques mois. Thomas Asportas nous détaille donc les mesures envisagées.
L'idée est de solder la facture du confinement, nous explique un haut responsable patronal. Pour cela, les indépendants et les commerçants auraient droit aux mêmes aides exceptionnelles que celles accordées aux entreprises du tourisme. Un fonds de solidarité maintenu jusqu'au 31 décembre et accessible jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 salariés. Le plan va aussi se pencher sur la question des loyers, véritable problème de frais fixes qui a émergé avec le confinement. La Caisse des dépôts créerait une foncière de plusieurs centaines de millions d'euros pour acheter des locaux mis en vente avec la crise et pour les louer ensuite à des prix plus avantageux. Enfin, les indépendants et les commerçants auraient jusqu'à 10 ans pour rembourser leurs prêts garantis par l'État, contre maximum 6 ans prévus à l'heure actuelle. Et puis ce plan de soutien devrait aussi apporter une nouvelle solution de financement à ces entrepreneurs, puisqu'ils auraient désormais accès au love money, les capitaux apportés par les proches lors d'une création d'entreprise et dont les indépendants sont exclus à l'heure actuelle.
Et le ministre du Logement et de la Ville, Julien de Normandie, a confirmé sur notre antenne l'existence de ce plan et que les détails étaient en cours de finalisation. Il était d'ailleurs l'invité de la matinale. Edwige Chevrillon l'a surtout interrogé sur l'état du secteur du BTP. Alors la reprise est-elle bien au rendez-vous? Comme nous l'indique chaque semaine le baromètre du déconfinement de notre ami Emmanuel de Chypre. Eh bien, on va donc écouter sur ce sujet les réponses de Julien de Normandie. Et juste après, un autre invité d'Edwige Chevrillon, c'est Olivier Saleron. C'est le tout nouveau président de la Fédération française du bâtiment. Il vient de prendre la succession de Jacques Chanu. Mais tout d'abord, donc, Julien de Normandie, interrogé par Edwige Chevrillon sur la reprise du BTP.
Bah écoutez, aujourd'hui, la reprise est là. L'envie de reprise est là. Chez tout le monde, les entrepreneurs, les employés, mais aussi l'ensemble des Français. Et ce matin, je vous l'annonce, nous sommes à 93% de reprise des chantiers sur le territoire national, 93%. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à peu près 15 jours, nous étions à 70%. Et il y a un mois, nous étions à peine 50%. Ce qui montre que la reprise, elle est là et que la dynamique est là. Nous ne sommes pas encore au 100%, donc nous devons continuer à accompagner le secteur. Mais vraiment, j'insiste dessus, on sent la dynamique reprendre. Et la dynamique, d'ailleurs, dans le logement, était bonne avant le confinement. On avait retrouvé des signaux positifs au vert. Et donc là, notre objectif, c'est d'accompagner cette reprise et de retrouver la dynamique. Il faut faire travailler les artisans. Il faut que les Français redonnent leur confiance dans les artisans. Vous savez, on avait beaucoup travaillé avec la Fédération du bâtiment et la CAPEB pour établir les petits artisans, pour établir des guides sanitaires. Ces guides sanitaires, on les a fait pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire revenir chez vous un artisan en toute sécurité pour vos travaux de rénovation énergétique par exemple. Donc faites travailler vos artisans, ayez confiance en eux.
Nous, on va proposer notre plan de relance. Je pense que la Fédération française du bâtiment est assez puissante, à la capacité...
Oui.
et la, je dirais même la légitimité de proposer elle-même son plan de relance. Eh bien, je vous le dis, le plan de relance va être présenté le 30 juin au matin, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes prêts et nous allons proposer quelque chose de très concret.
Annulation de charges, ça, j'ai entendu le message.
Ça, c'est tout de suite, c'est pour la reprise. Ouais, hein, ça, c'est des choses comme ça. Hein. C'est retour aussi, alors, on parlait des particuliers, à l'éligibilité de l'ensemble des particuliers, de l'ensemble de nos concitoyens, aux aides en rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, il y a toute une partie qui ont perdu des aides. On sait bien ce que ça fait, cet effet psychologique d'avoir un petit peu d'aide ou beaucoup pour faire des travaux. C'est excellent d'aider les personnes et les familles modestes et très modestes, mais il ne faut pas oublier les autres, les Français, on va dire, à revenus moyens et plus, parce qu'eux aussi ils consomment. Et donc aujourd'hui, cas exceptionnel avec le Covid, on a besoin de redémarrage immédiat, d'une reprise flash. Donc si on ne l'a pas, si on ne déclenche pas ces devis tout de suite, catastrophe, trou d'air au mois d'octobre.
Alors l'État, donc, on vient de le voir, pour les indépendants ou pour le secteur du BTP, est un acteur clé de la relance économique. Autre sujet dont il s'est emparé à l'occasion de la crise du coronavirus, eh bien, c'est le retour à une certaine forme de souveraineté sanitaire pour en finir, par exemple, avec les pénuries de masques ou de médicaments. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'Emmanuel Macron a visité mardi dernier une usine Sanofi à Marcy-l'Étoile, c'est dans le Rhône. Sanofi, géant français de l'industrie pharmaceutique, va investir 610 millions d'euros à la fois dans la recherche de vaccins et dans une toute nouvelle usine qui sera située près de Lyon. Tous les détails avec Hélène Cornet.
C'est une usine d'un nouveau type, évolutive, digitale, innovante, une première mondiale. Elle sera capable de fabriquer 3 ou 4 vaccins différents à la fois ou en cas de pandémie comme aujourd'hui, un seul vaccin mais en masse et dans des délais plus rapides. Sanofi va y investir près de 500 millions d'euros sur 5 ans, 200 emplois à la clé. Une usine pour l'avenir, elle permettra de sécuriser les approvisionnements en cas de future pandémie. Et en parallèle, Sanofi va consacrer 120 millions d'euros pour renforcer sa recherche et développement. Un investissement pour redonner à la France une certaine indépendance sanitaire. Et pourtant, il s'en est fallu de peu qu'elle soit construite à Singapour, rappelle Emmanuel Macron.
Il nous faut garder cette capacité à décider vite, à trancher fort et à avancer. Tout le monde le sait, puisque ce projet était dans l'air depuis 3 ans et la région embrouissée. Et il y a encore quelques semaines, ce projet aurait pu être décidé à Singapour. Il n'y a pas de fatalité quand on décide ensemble. Avec l'esprit de responsabilité, ce que nous avons fait.
Un investissement qui vient clore la polémique. Il y a un mois, Sanofi évoquait la possibilité de donner la primeur du vaccin aux États-Unis. Les États-Unis qui ont investi 30 millions de dollars dans sa recherche.
Voilà donc pour ces investissements privés en France qu'est venu soutenir Emmanuel Macron. Du côté de l'État, à présent, une enveloppe de 200 millions d'euros va être débloquée pour financer des infrastructures de production de médicaments en France. D'ici 3 ans, par exemple, on devrait pouvoir acheter du Doliprane ou de l'Efferalgan Made in France. L'annonce en a été faite ce jeudi. Et c'est dans ce contexte qu'est tombée une bonne nouvelle cette semaine. C'est un laboratoire français, Novacep, qui produira à grande échelle le futur vaccin contre le coronavirus, vaccin sur lequel est en train de travailler le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca. Alors une précision, ce sera en fait sur son site belge que Novacep va fabriquer les vaccins, car selon Michel Spagnol, le PDG de Novacep, eh bien la souveraineté sanitaire est avant tout une question européenne. Il est venu en parler cette semaine dans Inside au micro de Guillaume Paul.
On est une ETI française, donc on est un groupe français, on a 1500 personnes. Oui. Depuis 5 ans, on a investi près de 180 millions d'euros pour une entreprise de notre taille, c'est conséquent, sur des sites, nos sites français, mais aussi nos sites européens. L'activité en question sur laquelle nous allons réaliser le principe actif pour le candidat vaccin, pour le compte de notre partenaire AstraZeneca, c'est un site sur lequel nous avons investi en Belgique. Donc l'activité des vecteurs viraux sera faite sur le site belge et effectivement elle va générer à peu près la création d'une centaine d'emplois pour dédier en tout cas à cette production.
Est-ce que revenir sur ce qui a été délocalisé, est-ce que pour vous c'est en partie possible ou tout ou partie possible quand le président de la République nous dit nous devons recommencer à produire beaucoup plus de médicaments sur le sol français, dans quelle mesure c'est possible sachant que effectivement on a beaucoup délocalisé, que la mondialisation a fait son œuvre, qu'on a cassé des chaînes de production? Est-ce qu'on peut encore le faire ça, monsieur Spagnol, aujourd'hui?
D'abord il y a le sujet de la molécule finale, c'est-à-dire ce qui va vraiment au patient, le médicament dans la boîte. Effectivement, il y a encore beaucoup de productions qui se trouvent aujourd'hui en Europe, même si certaines de ces productions ont été délocalisées. Une entreprise comme Novacep est un maillon de la chaîne. Et dans ce maillon de la chaîne, on fait synthèse, on va dire, chimique classique. Et dans ce domaine-là, effectivement, beaucoup d'activités sont parties en Asie, et en particulier les matières premières dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire ces médicaments, oui, beaucoup d'entre elles sont localisées en Asie.
Oui.
Je pense qu'il est illusoire de penser que l'on va ramener l'entièreté de ces productions sur le territoire français. Je crois que ce qu'il faut plutôt, et c'est ce que nous proposons d'ailleurs dans la filière de l'activité, c'est plutôt d'essayer de faire des investissements ciblés pour essayer de moderniser, de flexibiliser nos sites en France, oui, et bien évidemment en concertation avec l'Europe, parce que chaque pays ne peut pas prétendre, oui, à vouloir développer sa filière. On va créer de la surproduction et personne ne sera servi. Donc il faut qu'il y ait des investissements, encore une fois, ciblés pour flexibiliser nos outils de production et pouvoir répondre, en particulier lorsqu'on a des sujets de pénurie de médicaments en,
oui,
Europe.
Oui.
Mais en même temps, il faut le faire en concertation avec l'Europe, parce que sinon on n'arrivera pas finalement seul en France à pouvoir répondre à ce souci.
À présent, une très belle histoire à la française, celle de Téléperformance qui va entrer dans le CAC 40 lundi prochain. Quel parcours pour cette petite entreprise née à la fin des années 70. C'était un centre d'appel qui depuis s'est hissé parmi les leaders mondiaux de la relation client. Dans un instant, on va écouter Olivier Rigaudy qui est le directeur général délégué du groupe Téléperformance. Mais tout d'abord, les grands actes de l'histoire de cette entreprise à la veille donc de son entrée au CAC 40. C'est un sujet signé Étienne Braque.
C'est en 1978 que l'aventure Téléperformance démarre dans un appartement parisien. En 8 ans, Daniel Julien va mettre sur pied le leader mondial des centres d'appel en France. Très vite, l'entreprise s'implante à l'international. Aujourd'hui, elle est présente dans 80 pays et le marché français représente seulement 3% de son chiffre d'affaires. L'un des secrets de Téléperformance, la digitalisation. Le groupe s'est adapté aux besoins de ses clients grâce à la transformation digitale, que ce soit avec le chat, les chatbots, les mails, les SMS et les réseaux sociaux, mais surtout avec l'intelligence artificielle, autant de solutions qui ont permis à Téléperformance d'aligner 31 trimestres consécutifs de croissance.
Je crois que le mérite en revient à Daniel Julien, qui quand même fondé ce groupe il y a 42 ans, quand même, il faut bien dire les choses, effectivement au départ avec des idées de télémarketing, et on a complètement changé de dimension et de métier, on s'est complètement réinventé. Donc aujourd'hui on fait un peu moins de 5 milliards et demi de chiffre d'affaires. Comme vous le disiez, on rentre au CAC 40 lundi, on fait un peu plus de 12 milliards, près de 12 milliards et demi de valeur en bourse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est là pour régler les problèmes des gens. Alors, on les règle à travers, effectivement, le téléphone, toujours, qui constitue un vecteur de communication, mais aussi la data, le chatbot, l'intelligence artificielle. Et on fait ça dans 80 pays, dans 265 langues.
Alors, l'entrée dans le CAC 40, ça fait quoi ? Parce que quand on est patron, directeur général d'un groupe, et qu'on rentre au CAC 40, c'est un peu le Graal, quand même, non ?
Le Graal, je sais pas. Enfin, pour moi, évidemment, il y a une part de fierté. Hein. On va pas vous dire le contraire. Et c'est bien parce que ça fédère toutes les équipes à travers le monde, c'est ce que vous disiez. La deuxième chose, c'est que c'est pas un aboutissement, vous l'avez compris.
C'est une consécration.
C'est une belle reconnaissance. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente la notoriété, la visibilité. Et puis, c'est vrai aussi sur le plan des investisseurs.
330 000 salariés, comment ont-ils été impactés par la crise ?
Et sur les 250 000 ou 240 000 agents qui travaillent face aux clients, on en a passé 170 000 en télétravail.
Et la question, parce que c'est la question que toutes les entreprises se posent aujourd'hui, combien allez-vous rester en télétravail ? Est-ce que ça a changé ? Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait davantage ? Ou est-ce que vous dites, non, tous ces gens-là, à un moment donné, il faut des relations humaines, il faut du collectif, on les rapatrie ?
Alors, on y avait pensé plus tôt. On avait beaucoup de difficultés à convaincre nos clients de le faire, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi diverses. Aujourd'hui, on est à 70-75% de télétravail. Je pense qu'on va revenir entre 40 et 50%.
Ah, quand même.
Donc, on va
beaucoup
rester
plus qu'avant.
Beaucoup plus qu'avant.
Et ça va
parce
changer.
Que ça fonctionne.
Ça va vous faire économiser des mètres carrés de bureau.
Oui, des mètres carrés de bureau. Ça va aussi soutenir la croissance future sur laquelle on est en train de travailler. Donc, oui, tout à fait. On est absolument convaincu que ça va changer le monde de demain, oui. Et je pense qu'on est dans le bon sens.
Et après Téléperformance, une autre entreprise française en pleine forme, c'est une start-up, il s'agit d'Iban First, qui vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de série C de 21 millions d'euros. On est là dans le domaine de la fintech, la technologie appliquée à la finance. Alors le cœur d'activité d'Iban First, est bien créé en 2013, c'est simplifier les paiements internationaux pour les PME et pour les ETI, marché actuellement ultra dominé par les banques traditionnelles. Mais Pierre-Antoine Dussoulier, qui est le fondateur d'Iban First, est venu expliquer à Frédéric Simotel les avantages donc face aux banques traditionnelles de ces solutions. C'était sur le plateau de Tech & Co.
c'est plus intéressant pour une entreprise aujourd'hui de nous utiliser plutôt que d'utiliser une banque traditionnelle. Donc, en dehors du prix, bien sûr, mm-hmm. il y a aussi, par exemple, la possibilité de tracer ses paiements, de savoir ouais. où se trouve un paiement. Donc, on utilise quelque chose qui s'appelle Swift GPI, mais qu'on donne à nos clients, on donne accès à ça à nos clients, et nos clients peuvent suivre où sont leurs paiements, comme on fait avec un paquet sur Amazon, par exemple. On sait exactement où on est.
C'est toutes ces fonctions-là qui font votre particularité, qui font votre différence. Qu'est-ce qu'elles demandent, les entreprises, aujourd'hui, quand elles viennent vous voir ?
Elles veulent du service. En fait, donc bien sûr, la technologie nous permet de faire plein de super choses, oui. mais aussi c'est surtout du service, et c'est là aussi où il y a un gap de plus important qui se creuse entre nous et des sociétés comme nous et les banques traditionnelles, où en fait la notion de service, surtout avec les crises qu'on a oui. Comme en ce moment, se perd complètement. On a vu par exemple pendant la crise, nous en fait on a très très bien fonctionné. On a eu peur à certains moments que notre business baisse, parce qu'on disait on est lié aux paiements internationaux, donc mm-hmm. on est lié aux échanges de matières, on s'est dit de produits et de services. On s'est dit peut-être qu'à un moment donné nos clients vont arrêter de transacter. Donc on a eu certaines industries bien sûr qui sont arrêtées, liées au tourisme ou choses comme ça, mais sinon on a eu beaucoup d'autres industries qui au contraire sont devenues encore plus dynamiques que d'habitude. Elles sont encore devenues plus dynamiques parce que en fait elles nous utilisaient même plus que d'habitude. Mmh. Ceux qui sont multibancarisés, qui utilisent de temps en temps une banque traditionnelle, de temps en temps nous, en fait sont mis à nous utiliser que nous, parce que c'est un espèce de crash test en fait, cette crise, oui. qui a vraiment fait ressortir nos avantages encore plus comparé aux avantages d'un acteur traditionnel. Les avantages, c'est la rapidité, oui. c'est voilà, le service, c'est la transparence, et c'est être disponible. On peut nous appeler à mmh. tout moment, ne serait-ce que le téléphone. Ça n'existe pas chez nous, avoir un répondeur ou avoir une ligne qui va à je ne sais pas où. On a interdit les auto-reply d'email, par exemple. Ce n'est pas possible non plus d'avoir un auto-reply chez nous. Si vous appelez, si vous envoyez un email à quelqu'un avec qui vous êtes en contact chez nous, ça ne sera pas possible qu'il vous...
Donc, c'est la réactivité. Alors, votre vision aussi, Pierre-Antoine Dussoulier, c'est d'avoir su gérer une croissance externe. Hein. Vous avez racheté un Irlandais, vous avez racheté un Allemand, oui, que je ne me trompe pas. Mmh. Est-ce que ça aussi, ces 21 millions d'euros, c'est regardez, avoir toujours un œil, forcément dans vos paiements avec vos clients, mais du coup, vous gardez un œil sur d'autres acteurs européens aussi qui pourraient vous rejoindre.
Bien sûr, bien sûr. En fait, on est assez content de l'acquisition qu'on a pu faire en Hollande, par exemple, qui mm-hmm. s'est très bien passée. Et l'idée pour nous, c'est d'essayer de faire des petites acquisitions de gens qui ont des clients, en fait. Ouais. Et notre technologie, elle peut se passeporter un peu partout. Donc, en fait, c'est assez facile de prendre des clients qui sont hollandais, allemands ou italiens et de les mettre après sur notre plateforme. Et en fait, d'avoir fait ces acquisitions l'an passé, ça nous a montré que ça marchait. Donc on est assez content et on se dit pourquoi pas continuer aussi à faire ça pour aller dans d'autres pays.
Alors on parlait tout à l'heure de la volonté de relocalisation de la production pharmaceutique en France. Eh bien un autre secteur veut pousser lui aussi un peu plus loin encore, le secteur du Made in France. C'est le meuble, l'ameublement. Aujourd'hui, il faut savoir que 40% des meubles achetés en France sont produits sur notre territoire. Les fabricants et les distributeurs veulent atteindre le seuil de 50%. Pour cela, plusieurs grands noms du secteur, comme par exemple But, Conforama, La Redoute et bien d'autres côté fabricants, viennent de lancer l'opération Meublez-vous français. Les meubles Gautier, qui sont à la fois d'ailleurs des fabricants et des distributeurs, participent à l'opération. Leurs usines sont en Vendée. Ils emploient 800 salariés. Le directeur général de l'enseigne, David Soulard, était l'invité d'Inside cette semaine.
La volonté qu'on a, c'est de passer de tous ensemble de 40 à 50%. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'approche prix total, prix, on va dire, incluant le transport, la disponibilité. On le voit bien. On est dans une période très instable, on ne sait pas trop ce qui va être vendu. Le coût du stock est très important, ou le coût de ne pas avoir le bon stock est aussi très important. Donc je pense qu'en coût total, le Made in France a vraiment sa place. Et les produits ne sont pas que des produits de catégorie élevée ou catégorie très élevée. Non, il y en a vraiment pour tout le monde.
Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette campagne, cette opération ? Parce que vous fabriquiez déjà français, vous étiez déjà oui. estampillé Made in France. Vous avez même fait une exposition à l'Élysée en janvier dernier.
Oui, tout à fait. Alors, il y a d'abord, oui, effectivement, Meublez-vous français, et puis après aussi, à fabriquer avec cœur dans nos régions. Je pense qu'à la sortie de ce qui vient de se passer, on a envie de redonner du sens à la consommation. Et moi, j'ai envie aussi de donner du sens au travail un peu plus fort encore des gens qui sont dans nos magasins. Et donc, ce sentiment d'appartenance est encore renforcé par la notion de fabriquer avec cœur, fabriquer avec fierté et distribuer la relation au client avec fierté. Donc, je pense que nous, Gautier, qui étions l'un des acteurs du Made in France et qui le sommes toujours, On est renforcé par cette notion de on est là pour vous. C'est un peu ce qu'on a dit à nos clients à la sortie du confinement.
Mais alors,
on est
là pour vous. Justement, de quelle manière vous avez été impacté par cette crise? Parce que avant la crise, il y a beaucoup d'enseignes du secteur, notamment Conforama, Fly ou encore Habitat, qui ont annoncé des suppressions de postes. Quel a été l'impact pour vous et quel a été l'impact sur votre chiffre d'affaires et le nombre d'employés aussi?
Au niveau des effectifs, on a clairement baissé nos effectifs pour attendre de meilleurs cieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le 11 mai, la consommation du meuble est très forte. On a pas mal de gens qui nous avaient annoncé que les consommateurs allaient se reconcentrer sur cette maison ou cet appartement dans lequel ils ont vécu aussi longtemps. Et clairement aujourd'hui, les résultats des premières semaines sont au-delà de nos espérances et bien au-delà.
Voilà donc pour cet énorme besoin de cocooning, d'être bien chez soi, qui a ressurgi à l'occasion du confinement. Alors après les meubles français, bien faisons-nous plaisir avec les matelas français. Coffel est le leader du marché en France. Il regroupe les trois célèbres marques Epeda, Merinos et Bultex. Tout cela produit dans 4 usines françaises. Et visiblement, eh bien actuellement, nous avons tous des envies et des besoins de matelas. C'est un sujet, la France qui résiste, signé Pauline Tadevin.
Le groupe Coffel est en train de vivre une reprise beaucoup plus forte qu'attendue en ce mois de juin, avec des ventes en hausse de 70% sur Internet, de 40% sur le commerce traditionnel et des exportations en hausse de 90% par rapport au mois de juin 2019. Et du coup, les 4 usines, toutes situées en France, repartent plus vite que prévu.
D'abord, nous avons démarré les usines à 25% début mai. Progressivement, nous sommes passés à plus 50%. Or, très rapidement, l'activité a explosé et donc on est en train de travailler en ce moment à 100% de capacité. Nous avons embauché 180 intérimaires. Il y en a 50 qui arrivent bientôt. Donc, on se retrouve avec une explosion effectivement de l'activité qui n'était pas attendue.
Grâce à cette reprise, Coffel éponge peu à peu les dégâts causés par la crise et Louise Flacker espère que fin juin, elle n'aura coûté que 30% de son chiffre d'affaires au groupe. Surtout, l'attitude des 850 salariés qui ont décidé eux-mêmes de fabriquer des dizaines de milliers de masques pendant la crise le rend d'autant plus confiant pour la suite.
Forcément, je reste très optimiste puisque quand vous avez l'équipe partout en France dans nos 4 usines qui se mobilisent eux-mêmes sans aucune impulsion de la direction, qui sont capables eux-mêmes de se prendre en main, de définir des masques, de créer des prototypes et de les faire valider par la direction générale de l'armement, ça veut dire que nous avons une équipe extrêmement engagée. Donc, je n'ai pas de doute que nous allons réussir. Et donc, je sors de ce confinement extrêmement motivé, en fait. C'est eux-mêmes qui me donnent encore davantage d'envie de continuer à réussir.
La situation très difficile du gros client Conforama n'entame pas cet optimisme, assure Louise Flacker, persuadée que les matelas français continueront de rencontrer leur public en magasin ou sur Internet. Et quant au projet de passer à 100% sous le pavillon de l'Espagnol Picoline, les discussions se poursuivent, confirme-t-il, avec l'autre actionnaire, le Sud-Africain Steinhoff. Mais quoi qu'il arrive, Louise Flacker le martèle, Coffel gère et continuera à gérer son activité et sa croissance en France de manière indépendante.
Voilà donc pour ce nouvel exemple et ce nouveau succès du Made in France. Oui, on peut relocaliser ou en tout cas davantage produire en local. Ce sera un des enseignements forts de cette crise du coronavirus. On se retrouve vendredi prochain pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour repartir. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business. La France a tout pour repartir.